Lucien Levenne, chapitre 62. Pendant que Lucien s'étonnait, à l'hôtel Grandet, de la physionomie singulière de l'accueil qu'il recevait ce jour-là, Madame Levenne avait une grande conversation avec son mari. « Ah, mon ami, lui disait-elle, l'ambition vous a tourné la tête, une si bonne tête, grand Dieu, votre poitrine va souffrir, et que peut l'ambition pour vous ? Est-ce de l'argent ? Est-ce des cordons ? » Ainsi parlait Madame Levenne à son mari, lequel se défendait mal. Notre lecteur s'étonnera peut-être qu'une femme qui, à 45 ans, était encore la meilleure amie de son mari, fût sincère avec lui. C'est qu'avec un homme d'un esprit singulier et un peu fou, comme M. Levenne, il eût été excessivement dangereux de n'être pas parfaitement naïve. Après avoir été dupe un mois ou deux, par étourderie, par laisser-aller, un beau jour, toutes les forces de cet esprit, vraiment étonnant, se seraient concentrées, comme le feu dans un fourneau à réverbère, sur le point à l'égard duquel on voulait le tromper. La fin eût été découverte, moquée, et le crédit à jamais perdu. Par bonheur, pour le bonheur des deux époux, ils pensaient tout haut en présence l'un de l'autre. Au milieu de ce monde si menteur, et dans les relations intimes plus menteuses peut-être que dans celles de société, ce parfum de sincérité parfaite avait un charme auquel le temps n'ôtait rien de sa fraîcheur. Jamais M. Levenne n'avait été si près de mentir que dans ce moment. Comme son succès à la chambre ne lui avait coûté aucun travail, il ne pouvait croire à sa durée, ni presque à sa réalité. Là était l'illusion, là était le coin de folie, là était la preuve du plaisir extrême produit par ce succès et la position incroyable qu'il avait créée en 3 mois. Si M. Levenne eût porté dans cette affaire le sang-froid qui ne le quittait pas au milieu des plus grands intérêts d'argent, il se serait dit « Ceci est un nouvel emploi d'une force que je possède déjà depuis longtemps. C'est une machine à vapeur puissante que je ne m'étais pas encore avisée de faire fonctionner en ce sens. » Les flots de sensations nouvelles produites par un succès si étonnant faisaient un peu perdre terre au bon sens de M. Levenne, et c'est ce qu'il avait honte d'avouer, même à sa femme. Après des discours infinis, M. Levenne ne put plus ni nier la dette. « Eh bien oui, dit-il enfin, j'ai un accès d'ambition, et ce qu'il y a de plaisant, c'est que je ne sais pas quoi désirer. » La fortune frappe à votre porte, il faut prendre un parti tout de suite, si vous ne lui ouvrez pas, elle ira frapper ailleurs. Les miracles du Tout-Puissant éclatent surtout quand ils opèrent sur une matière vile et inerte. Je fais Grandet ministre, ou du moins je l'essaie. « Monsieur Grandet ministre, dit Madame Levenne en souriant, mais vous êtes injuste envers Anselme, pourquoi ne pas songer à lui ? » Le lecteur aura peut-être oublié qu'Anselme était le vieux et fidèle valet de chambre de M. Levenne. « Tel qu'il est, répondit M. Levenne avec ce sérieux plaisant qui lui donnait tant de plaisir. Avec ses 60 ans, Anselme vaut mieux pour les affaires que M. Grandet. Après qu'on lui aura accordé 1 mois pour se guérir de son étonnement, il décidera mieux les affaires, surtout les grandes, où il faut un vrai bon sens, que M. Grandet. Mais Anselme n'a pas une femme qui soit au moment d'être la maîtresse de mon fils. Mais en portant Anselme au ministère de l'Intérieur, tout le monde ne verrait pas que c'est Lucien que je fais ministre en sa personne. « Ah ! Que m'apprenez-vous ? » s'écria Madame Levenne. Et le sourire qui avait accueilli l'énumération des mérites d'Anselme disparut à l'instant. « Vous allez compromettre mon fils. Lucien va être la victime de cet esprit sans repos, de cette femme qui court après le bonheur comme une âme en peine et ne l'atteint jamais. Elle va le rendre malheureux et inquiet comme elle. Mais comment n'a-t-il pas été choqué par ce que ce caractère de vulgaire? C'est une copie continue.
Mais c'est la plus jolie femme de Paris, ou du moins la plus brillante. Elle ne peut avoir un amant, elle, si sage jusqu'ici, sans que tout Paris ne le sache. Et pour peu que cet amant ait déjà un nom un peu connu dans le monde, ce choix le place au premier rang.
Après une longue discussion qui ne fut pas sans charme pour Madame Leven, elle finit par convenir de cette vérité. Elle se borna à soutenir que Lucien était trop jeune pour pouvoir être présenté au public, et surtout aux chambres, comme un homme d'affaires, un homme politique. « Il a le tort d'avoir une tournure élégante et d'être vêtu avec grâce, mais je compte, à la première occasion, faire la leçon là-dessus à Madame Grandet. Enfin, ma chère amie, je compte avoir tout à fait chassé Madame de Chastelet de ce cœur-là. Et, je puis vous l'avouer aujourd'hui, elle me faisait trembler. Il faut que vous sachiez que Lucien a un travail admirable. J'ai d'admirables nouvelles de lui par le vieux Dubreuil, sous-chef de bureau depuis mon ami Crété, il y a 29 ans de cela. Lucien expédie autant d'affaires au ministère que 3 chefs de bureau. Il ne s'est laissé gâter par aucune des bêtises de la routine que les demi-sots appellent l'usage, le 30-30 des affaires. Lucien les décide net, avec témérité, de façon à se compromettre peut-être, mais de manière aussi à ne pas avoir à y revenir. Il s'est déclaré l'ennemi du marchand de papier du ministère et veut des lettres en 10 lignes. Malgré la leçon qu'il a eue à Caen, il opère toujours de cette façon, hardi et ferme. Et remarquez que comme nous en étions convenus, je ne lui ai jamais dit mon avis net sur sa conduite dans l'élection de M. Mérobert. Je l'ai bien défendu indirectement à la Chambre, mais il a pu voir dans mes phrases l'accomplissement d'un devoir de famille. Je le ferai secrétaire général si je puis. Si l'on me refuse ce titre à cause de son âge, il sera du moins secrétaire général, en effet. La place restera vacante, et sous le nom de secrétaire intime, il en fera les fonctions. Il se cassera le cou en 1 an ou il se fera une réputation. Et je dirai niaisement « J'ai fait pour lui rendre le destin plus doux, tout ce qu'on peut attendre d'une amitié tendre. Quant à moi, je tire mon épingle du jeu. On voit que j'ai fait grandir ministre parce que mon fils n'est pas encore de calibre à le devenir. Si je n'y réussis pas, je n'ai pas de reproche à me faire. » La fortune ne frappait donc pas à ma porte. Si j'emporte le Grandet, me voilà hors d'embarras pour 6 mois.
Monsieur Grandet pourra-t-il se soutenir?
Il y a des raisons pour et il y en a contre. Il aura les sceaux pour lui. Il aura, je n'en doute pas, un train de maison à dépenser 100 000 francs en sus de ses appointements. Cela est immense. Il ne lui manquera absolument que de l'esprit dans la discussion et du bon sens dans les affaires.
« Excusez du peu, » dit Madame Leven.
« Au demeurant, le meilleur fils du monde. À la chambre, il parlera comme vous savez. Il lira comme un laquais les excellents discours que je commanderai au meilleur faiseur à 100 louis par discours réussi. Je parlerai. Aurais-je du succès pour la défense comme j'en ai eu pour l'attaque? C'est ce que je suis curieux de voir, et cette incertitude m'amuse. Mon fils et le petit Koff me feront les carcasses de mes discours de défense. Tout cela peut être fort plat, je crois bien. » Mais au fond, elle était très choquée de la partie féminine de cet arrangement.
« Cela est de mauvais goût. « Je m'étonne comment vous pouvez donner les mains à de telles choses. »
« Mais, ma chère amie, la moitié de l'histoire de France est basée sur des arrangements exactement aussi exemplaires que celui-ci. Les 3/4 des fortunes des grandes familles que vous voyez aujourd'hui, si collées montées, furent établies autrefois par les mains de l'amour. »«
Grand Dieu, quel amour !»
« Allez-vous me disputer ce nom honnête que les historiens de France ont adopté? Si vous me fâchez, je prendrai le mot exact. de François Ier à Louis XV, le ministère a été donné par les dames, au moins aux deux tiers des vacances. Toutes les fois que notre nation n'a pas la fièvre, elle revient à ses mœurs qui sont les siennes. Et y a-t-il du mal à faire ce qu'on a toujours fait ? C'était là la vraie morale de M. Leven. Pour sa femme, née sous l'Empire, elle avait cette morale sévère qui convient au despotisme naissant. Elle eut quelque peine à s'accoutumer à cette morale. Chapitre 63. Madame Grandet n'avait rien de romanesque dans le caractère ni dans les habitudes. Ce qui formait, pour qui avait des yeux et n'était pas ébloui par un port de reine et une fraîcheur digne d'une jeune fille anglaise, un étrange contraste avec sa façon de parler toute sentimentale et toute d'émotion, comme une nouvelle de M. Naudier. Elle ne disait pas « Paris », mais « cette ville immense ». Madame Grandet, avec cet esprit si romanesque en apparence, portait dans toutes ses affaires une raison parfaite, l'ordre et l'attention d'un petit marchand de fil et de mercerie en détail. Quand elle se fut accoutumée au bonheur d'être la femme d'un ministre, elle songea que M. Leven pouvait être égaré par la douleur de voir son fils devenir la victime d'un amour sans espoir, ou du moins se donner un ridicule, car elle ne mit jamais en question l'amour de Lucien. Elle ne connaissait de l'amour que les mauvaises copies chargées que l'on voit ordinairement dans le monde. Elle n'avait pas les yeux qu'il faut pour le voir là où il est et se cache. La grande question à laquelle Madame Grandet revenait sans cesse était celle-ci. « Monsieur Leven, a-t-il le pouvoir de faire un ministre ? C'est sans doute un orateur fort à la mode. Malgré sa voix presque imperceptible, c'est le seul homme que la Chambre écoute, on ne peut le nier. On dit que le roi le reçoit en secret. Il est au mieux avec le maréchal N, ministre de la guerre. La réunion de toutes ces circonstances constitue sans doute une position brillante, mais de là à porter le roi, cet homme si fin et si habile à tromper, à confier un ministère à M. Grandet, la distance est incommensurable. » Et Madame Grandet soupirait profondément. Tourmentée par cette incertitude qui peu à peu, en deux jours de temps, minait tout son bonheur, Madame Grandet prit son parti avec fermeté et demanda hardiment un rendez-vous à M. Leven. « Il ne faut pas le traiter en homme. » Et elle eut l'audace d'indiquer ce rendez-vous chez elle. « Cette affaire est si importante pour nous que je pense que vous ne trouverez pas singulier que je vous supplie de me donner quelques détails sur les espérances que vous m'avez permis de concevoir. » Ainsi, se dit M. Leven en souriant intérieurement, on ne discute pas le prix, mais seulement la sûreté de la livraison de la chose vendue. M. Leven, du ton le plus intime et le plus sincère, « Je suis trop heureux, madame, de voir se resserrer de plus en plus les liens de notre ancienne et bonne amitié. Ils doivent être intimes dorénavant, et pour les amener bientôt à ce degré de douce franchise et de parfaite ouverture de cœur, je vous prie de me permettre un langage exempt de tout vain déguisement, comme si déjà vous faisiez partie de la famille. » Ici, M. Leven retint à grand-peine un coup d'œil malin. « Ai-je besoin de vous demander une discrétion absolue ? Je ne vous cache pas un fait, que d'ailleurs votre esprit profond, autant que juste, aura deviné de reste. M. le comte de Vaise est aux écoutes. Une seule donnée, un seul fait que ce ministre pourrait recueillir par un de ses 100 espions, par exemple, par M. le marquis de G ou M. R, que bien vous connaissez, pourrait déranger toutes nos petites affaires. M. de Vaise voit le ministère lui échapper, et l'on ne peut lui refuser beaucoup d'activités. Tous les jours, il fait 10 visites avant 8 heures du matin. Cette heure insolite pour Paris flatte les députés, auxquels elle rappelle l'activité qu'ils avaient autrefois quand ils étaient clercs de procureurs. M. Grandet est, ainsi que moi, à la tête de la banque, et depuis juillet, la banque est à la tête de l'État. La bourgeoisie a remplacé le faubourg Saint-Germain et la banque est la noblesse de la classe bourgeoise. Monsieur Laffitte, en se figurant que tous les hommes étaient des anges, a fait perdre le ministère à sa classe. Les circonstances appellent la haute banque à ressaisir l'Empire et à reprendre le ministère, par elle-même ou par ses amis. On accusait les banquiers d'être bêtes. L'indulgence de la Chambre a bien voulu me mettre à même de prouver qu'au besoin, nous savons affubler nos adversaires politiques de mots assez difficiles à faire oublier. Je sais mieux que personne que ces mots ne sont pas des raisons. Mais la Chambre n'aime pas les raisons, et le roi n'aime que l'argent. Il a besoin de beaucoup de soldats pour contenir les ouvriers et les républicains. Le gouvernement a le plus grand intérêt à ménager la bourse. Un ministère ne peut pas défaire la bourse, et la bourse peut défaire un ministère. Le ministère actuel ne peut aller loin. Et c'est ce que dit M. Grandet. Il a des vues assez justes, mais puisque vous me permettez le langage de l'amitié la plus intime, je vous avouerai que sans vous, madame, je n'eusse jamais songé à M. Grandet. Je vous le dirai brutalement. Vous croyez-vous assez de crédit sur lui pour le diriger dans toutes les actions capitales de son ministère? Il lui faut toute votre habileté pour ménager le maréchal, le ministre de la guerre. Le roi veut l'armée. Le maréchal peut seul l'administrer et la contenir. Or, il aime l'argent. Il veut beaucoup d'argent. C'est au ministre des Finances à fournir cet argent. Monsieur Grandet devra tenir la balance entre le maréchal et le ministre de l'Argent. Autrement, il y a rupture. Par exemple, aujourd'hui, les différends du maréchal avec le ministre des Finances ont amené 20 brouilles, suivies de 20 raccommodements. L'aigreur des deux parties est arrivée au point de ne plus permettre de mettre en délibération les sujets les plus simples. L'argent est le nerf non seulement de la guerre, mais encore de l'espèce de paix armée dont nous jouissons depuis juillet. Outre l'armée, indispensable contre les ouvriers, il faut donner des places à tout l'état-major de la bourgeoisie. Il y a là 6 000 bavards qui feront de l'éloquence contre vous si vous ne leur fermez pas la bouche avec une place de 6 000 francs. Le maréchal, voulant toujours de l'argent, a donc dû jeter les yeux sur un banquier pour ministre de l'Intérieur. Il veut, entre nous soit dit, un homme à opposer, s'il le faut, au ministre des Finances, un homme qui comprenne les diverses valeurs de l'argent aux différentes heures de la journée. Ce banquier, ministre de l'Intérieur, cet homme, qui peut comprendre la bourse et dominer jusqu'à un certain point les mouvements de M. Rothschild et du ministre des Finances, s'appellera-t-il Leven ou Grandet? Je suis bien paresseux. Bien vieux, tranchons le mot. Je ne puis pas encore faire mon fils ministre. Il n'est pas député, je ne sais pas s'il saura parler. Par exemple, depuis 6 mois, vous l'avez rendu muet. Mais je puis faire ministre l'homme présentable choisi par la personne qui sauvera la vie à mon fils. Je ne doute pas de la sincérité de votre bonne intention pour nous. J'entends, madame, vous doutez un peu, et c'est une nouvelle raison pour moi d'admirer votre sagesse. Vous doutez de mon pouvoir. Dans la discussion des grands intérêts de la cour et de la politique, le doute est le premier des devoirs, et ne se trouve une injure pour aucune des parties contractantes. On peut se faire illusion à soi-même et précipiter non seulement l'intérêt d'un ami, mais son intérêt propre. Je vous ai dit que je pourrais jeter les yeux sur M. Grandet. Vous doutez un peu de mon pouvoir. Je ne puis vous donner le portefeuille de l'Intérieur ou des Finances comme je vous donnerais ce bouquet de violettes. Le roi lui-même, dans nos habitudes actuelles, ne peut vous faire un tel don. Un ministre, au fond, doit être élu par 5 ou 6 personnes, dont chacune a plutôt le veto sur le choix des autres que le droit absolu de faire triompher son candidat. Car enfin, n'oubliez pas, madame, qu'il s'agit de plaire tout à fait au roi, plaire à peu près à la Chambre des députés, et enfin ne pas trop choquer cette pauvre Chambre des pairs.
C'est à vous, ma toute belle. À voir si vous voulez croire que je veux faire tout ce qui est en moi pour vous placer dans l'hôtel de la rue de Grenelle. Avant d'estimer mon degré de dévouement à vos intérêts, cherchez à vous faire une idée nette de cette portion d'influence que pour 2 ou 3 fois 24 heures le hasard a mis dans mes mains.
Je crois en vous, et beaucoup, et admettre avec vous une discussion sur un pareil sujet n'en est pas une faible preuve. Mais de la confiance en votre génie et en votre fortune à faire les sacrifices que vous semblez exiger, il y a loin.
Je serais au désespoir de blesser le moins du monde cette charmante délicatesse de votre sexe, qui s'est ajoutée tant de charme à l'éclat de la jeunesse et de la beauté la plus achevée. Mais madame de Chevreuse, la duchesse de Longueville, toutes les femmes qui ont laissé un nom dans l'histoire, et ce qui est plus réel, qui ont établi la fortune de leur maison, ont eu quelquefois des entretiens avec leur médecin. Eh bien, moi, je suis le médecin de l'âme, le donneur d'avis à la noble ambition que cette admirable position a dû placer dans votre cœur. Dans un siècle, au milieu d'une société où tout est sable mouvant, où rien n'a de la consistance, où tout s'est écroulé, votre esprit supérieur, votre grande fortune, la bravoure de M. Grandet et vos avantages personnels vous ont créé une position réelle, résistante, indépendante de ce procès du pouvoir. Vous n'avez qu'un ennemi à craindre, c'est la mode. Vous êtes sa favorite dans ce moment, mais quel que soit le mérite personnel, la mode se lasse. Si d'ici à 1 an ou 18 mois, vous ne présentez rien de neuf à admirer à ce public qui vous rend justice en ce moment et vous place dans une situation si élevée, vous serez en péril. La moindre vétille, une voiture de mauvais goût, une maladie, un rien, malgré votre âge si jeune, vous placeront au rang des mérites historiques.
Il y a longtemps que je connais cette grande vérité, dit madame Grandet avec l'accent d'humeur d'une reine à laquelle on rappelle mal à propos une défaite de ses armées. Il y a longtemps que je connais cette grande vérité. La vogue est un feu qui s'éteint s'il ne s'augmente.
Il y a une vérité secondaire, non moins frappante, d'une application non moins fréquente. C'est qu'un malade qui se fâche contre son médecin, un plaideur qui se fâche contre son avocat, au lieu de réserver son énergie à combattre ses adversaires, n'est pas à la veille de changer sa position en bien.
Monsieur Leven se leva. « Ma chère belle, les moments sont précieux. Voulez-vous me traiter comme un de vos adorateurs et chercher à me faire perdre la tête? Je vous dirai que je n'ai plus de tête à perdre, et je vais chercher fortune ailleurs. »
Vous êtes un cruel homme. Eh bien, parlez.
Madame Grandet fit bien de ne pas continuer à faire des phrases. Monsieur Leven, qui était bien plus un homme de plaisir et d'humeur qu'un homme d'affaires et surtout qu'un ambitieux, trouvait déjà ridicule de faire dépendre ses plans des caprices d'une femmelette et cherchait dans sa tête quelque autre arrangement pour mettre Lucien en évidence.
« Je ne suis pas fait pour le ministère, je suis trop paresseux, trop accoutumé à m'amuser, » se disait-il pendant les phrases de madame Grandet, comptant trop peu sur le lendemain. « Si au lieu d'avoir à déraisonner et battre la campagne devant moi, une petite femme de Paris, j'avais le roi, mon impatience serait la même, et elle ne me serait jamais pardonnée. Donc, je dois réunir tous mes efforts sur mon fils. »
« Madame, dit-il comme revenant de bien loin, voulez-vous me parler comme à un vieillard de 65 ans, pour le moment ambitieux et politique, ou voulez-vous continuer à me faire l'honneur de me traiter comme un beau jeune homme ébloui de vos charmes, comme ils le sont tous ?»«
Parlez, monsieur, parlez !» dit madame Grandet avec vivacité, car elle était habile à lire dans les yeux la résolution des gens avec qui elle parlait. Et elle commençait à avoir peur.
Monsieur Leven lui paraissait ce qu'il était, c'est-à-dire sérieusement impatienté.
Il faut que l'un de nous deux ait confiance en la fidélité de l'autre.
Eh bien, je vous répondrai avec toute la franchise qu'à l'instant même vous présentiez comme un devoir. Pourquoi mon lot doit-il être d'avoir confiance ?
C'est la force des choses qui le veut ainsi. Ce que je vous demande, ce qui fait votre enjeu, si vous daignez me permettre cette façon de parler si vulgaire, mais pourtant si claire.
Et le ton de M. Levenne perdit beaucoup de sa parfaite urbanité pour se rapprocher de celui d'un homme qui marchand d'une terre et qui vient de nommer son dernier prix.
Ce qui fait votre enjeu, madame, dans cette grande intrigue de haute ambition, dépend entièrement et uniquement de vous, tandis que la place assez enviée dont je vous offre l'achat dépend du roi et de l'opinion de 4 ou 5 personnes qui daignent m'accorder beaucoup de confiance, mais qui enfin ont leur volonté propre, et qui d'ailleurs, après 1 jour ou 2, après un échec de tribune par exemple, peuvent ne plus vouloir de moi. Dans cette haute combinaison d'état et de haute ambition, celui de nous deux qui peut disposer du prix d'achat, de ce que vous m'avez permis d'appeler son enjeu, doit le délivrer, sous peine de voir l'autre partie contractante avoir plus d'admiration pour sa prudence que pour sa sincérité. Celui de nous deux qui n'a pas son enjeu en son pouvoir, et c'est moi qui suis cet homme, doit faire tout ce que l'autre peut humainement demander pour lui donner des gages.
Madame Grandet était rêveuse et visiblement embarrassée, mais plus des mots à employer pour faire la réponse que de la réponse même. Monsieur Levenne, qui ne doutait pas du résultat, eut un instant l'idée malicieuse de renvoyer au lendemain. La nuit eut porté conseil. Mais la paresse de revenir lui donna le désir de finir sur le champ. Il ajouta d'un ton tout à fait familier et en abaissant le son de sa voix d'un demi-ton avec la voix basse de monsieur de Talleyrand.
Ces occasions, ma chère amie, qui font ou défont la fortune d'une maison, se présentent une fois dans la vie, et elles se présentent d'une façon plus ou moins commode. La montée au temple de la fortune qui se présente à vous est une des moins épineuses que j'ai vues. Mais aurez-vous du caractère ? Car enfin, la question se réduit de votre part à ce dilemme. Aurais-je confiance en M. Levenne, que je connais depuis 15 ans ?
Pour répondre avec sang-froid et sagesse, dites-vous, quelle idée avais-je de M. Levenne et de la confiance qu'il mérite il y a 15 jours, avant qu'il fût question de ministère et de transactions politiques entre lui et moi ?
Confiance entière, dit Madame Grandet avec soulagement, comme heureuse de devoir rendre à M. Levenne une justice qui tendait à la faire sortir d'un doute bien pénible. Confiance entière.
M. Levenne dit, de l'air qu'on a en convenant d'une nécessité,
« Il faut que sous 2 jours au plus tard, je présente M. Grandet au maréchal. »
« M. Grandet a dîné chez le maréchal il n'y a pas un mois, » dit Madame Grandet d'un ton net et piqué.
J'ai fait fausse route avec cette vanité de femme. Je la croyais moins bête.
Certainement, je ne puis pas avoir la prétention d'apprendre au maréchal à connaître la personne de M. Grandet. Tout ce qui s'occupe à Paris de grandes affaires connaît M. Grandet. Ses talents financiers, son luxe, son hôtel. Avant tout, il est connu par la personne la plus distinguée de Paris, à laquelle il a l'honneur de donner son nom. Le roi lui-même a beaucoup de considération pour lui. Son courage est connu, etc., etc. Tout ce que j'ai à dire au maréchal, c'est ce traître mot. Voilà M. Grandet, excellent financier, qui comprend l'argent et ses mouvements, dont vous pourriez faire un ministre de l'Intérieur capable de tenir tête au ministre des Finances. Je soutiendrai M. Grandet de toutes les forces de ma petite voix.
Voilà ce que j'appelle présenter, ajouta M. Levenne, toujours d'un ton assez vif.
Si sous 3 jours je ne dis pas cela, je devrais dire, sous peine de me manquer à moi-même.
Toute réflexion faite, je me ferai aider par mon fils, si vous voulez lui donner le titre de sous-secrétaire d'État. Et j'accepte le ministère. Croyez-vous qu'après avoir présenté M. Grandet au maréchal, je suis homme à lui dire en secret « N'ayez aucune foi ce que je viens de vous dire devant Grandet, c'est moi qui veux être ministre. »
Ce n'est pas de votre bonne foi qu'il peut être question, et vous appliquez un emplâtre à côté du trou. Ce que vous me demandez est étrange. Vous êtes un libertin,
dit Madame Grandet pour adoucir le ton du discours. Votre opinion, bien connue sur ce qui fait toute la dignité de notre sexe, ne vous permet pas de bien apprécier toute l'étendue du sacrifice. Que dira Madame Leveine? Comment lui cacher ce secret?
De mille façons, par un anachronisme, par exemple.
Je vous avouerai que je suis hors d'état de continuer la discussion. Daignez renvoyer la conclusion de notre entretien à demain.
À la bonne heure. Mais demain serai-je encore le favori de la fortune? Si vous ne voulez pas de mon idée, il faut que je m'arrange autrement, et que, par exemple, je cherche à distraire mon fils, qui fait tout mon intérêt en ceci, par un grand mariage. Songez que je n'ai pas de temps à perdre. L'absence de réponse demain est un non sur lequel je ne puis plus revenir. »
Madame Grandet venait d'avoir l'idée de consulter son mari.
Chapitre 64.
Monsieur Leveine est un père passionné. Son principal motif, sa grande inquiétude dans toute cette affaire, c'est le goût que Monsieur Lucien Leveine montre pour Mademoiselle Raymonde de l'Opéra.
Ma foi, tel père, tel fils.
C'est ce que j'ai pensé, dit Madame Grandet en riant. « Il faut vous charger de ce sujet-là, » ajouta-t-elle d'un air plus sérieux, « ou bien vous n'aurez pas la voix de M. Leveine. »«
C'est une belle voix que vous me promettez là. »«
Je sais que vous avez de l'esprit, mais tant que cette petite voix se fera écouter, tant que ces sarcasmes seront de mode à la Chambre, on prétend qu'il peut défaire les ministères, et l'on ne se hasardera pas à en composer un sans lui. »
C'est plaisant. Un banquier à demi hollandais, connu par ses campagnes à l'opéra et qui n'a pas voulu être capitaine de la garde nationale,
ajouta M. Grandet d'un air tragique. Son ambition datait des journées de juin.
De plus, ajouta-t-il d'un air encore plus sombre.
Il était fort bien reçu par la reine.
De plus, connu par d'infâmes plaisanteries sur tout ce que les hommes en société doivent respecter,
etc., etc.
Monsieur Grandet était un demi-sot, lourd et assez instruit, qui chaque soir suait sang et eau pendant une heure pour se tenir au courant de notre littérature. C'était son mot. Du reste, il n'eût pas su distinguer une page de Voltaire d'une page de Monsieur Viennet. On peut deviner sa haine pour un homme d'esprit qui avait des succès et ne se donnait aucune peine. C'était ce qui l'outrait davantage. Madame Grandet savait qu'il n'y avait aucun parti à tirer de son mari jusqu'à ce qu'il eût épuisé toutes les phrases bien faites, à ce qu'il pensait, qu'un sujet quelconque pouvait lui fournir. Le malheur, c'est qu'une de ces phrases engendrait l'autre. Monsieur Grandet avait l'habitude de se laisser aller à ce mouvement. Il espérait arriver ainsi à avoir de l'esprit. Et il eût eu raison si, au lieu de Paris, il eût habité Lyon ou Bourges. Quand Madame Grandet, par son silence, fut tombée d'accord avec lui sur tous les démérites de Monsieur Leveine, et ce riche sujet occupa bien 20 minutes.
« Vous marchez maintenant dans la route de la haute ambition. » Vous souvient-il du mot du chancelier Oxenstiern à son fils ?
C'est mon bréviaire que ces bons mots des grands hommes, ils me conviennent tout à fait.
Oh, mon fils, vous reconnaîtrez avec combien peu de talent l'on mène les grandes affaires de ce monde.
Eh bien, pour un homme comme vous, Monsieur Leveine est un moyen. Qu'importe son mérite ? Si une chambre composée de demi-sots s'amuse de ses quolibets et prend ses conversations de tribune pour l'éloquence à haute portée d'un véritable homme d'État,
Que vous importe ? Songez que c'est une faible femme, Madame de, qui, parlant à une autre faible femme, la reine Anne d'Autriche, a fait entrer dans le conseil le fameux cardinal de Richelieu. Quel que soit Monsieur Leven, il s'agit de flatter sa manie tant que la chambre aura celle de l'admirer. Mais ce que je vous demande, à vous qui courez les cercles politiques et qui voyez ce qui se passe avec un coup d'œil sûr, le crédit de Monsieur Leven est-il réel? Car il n'entre pas dans mon système de haute et pure moralité de faire des promesses et ensuite de ne pas les tenir avec religion. Elle ajouta avec humeur. Cela ne m'irait point du tout. Madame Grandet se moquait de son mari et ne sentait pas toute la portée du ridicule qu'elle exprimait. Eh bien, oui, répondit Monsieur Grandet avec humeur. Monsieur Leven a tout crédit pour le moment. Ces colibés à la tribune séduisent tout le monde. Déjà, pour le goût littéraire, je suis de l'avis de mon ami Viennet, de l'Académie française. Nous sommes en pleine décadence. Le maréchal le porte, car il veut de l'argent avant tout, et Monsieur Leven, je ne sais en vérité pourquoi ni comment, est le représentant de la bourse. Il amuse le vieux maréchal par ses calembres d'aine de mauvais ton. Il n'est pas difficile d'être aimable quand l'on se permet de tout dire. Le roi, malgré son goût exquis, souffre cet esprit de Monsieur Leven. On dit que c'est lui uniquement qui a démoli le pauvre Devèze au château dans l'esprit du roi. Mais, en vérité, Monsieur Devèze à la tête des arts, cela était trop plaisant. On lui propose un tableau de Rembrandt à acheter pour le musée. Il écrit en marge du rapport « Me dire ce que Monsieur Rembrandt a exposé au dernier salon. » Oui, mais Monsieur Devèze est poli, et Leven sacrifiera toujours un ami à un bon mot. Vous sentez-vous le courage de prendre Monsieur Lucien Leven, ce fils silencieux d'un père si bavard, pour votre secrétaire général? Comment? Un sous-lieutenant de Lancier, secrétaire général? Mais c'est un rêve! Cela ne s'est jamais vu! Où est la gravité? Hélas! Nulle part. Il n'y a plus de gravité dans nos mœurs. C'est déplorable. Monsieur Leven n'a pas été grave en me donnant son ultimatum, sa condition sine qua non. Songez, monsieur, que si nous faisons une promesse, il faut la tenir. Prendre pour secrétaire général un petit sournois qui s'avise aussi d'avoir des idées? Il jouera auprès de moi le rôle que Monsieur de N jouait auprès de Monsieur de Villèle. Je ne me soucie pas d'un ennemi intime. » Madame Grandet eut encore à supporter 20 minutes d'humeur, les phrases spirituelles et profondes d'un demi-sot qui cherchait à imiter Montesquieu, qui ne comprenait pas un mot à sa position et qui avait l'intelligence bouchée par 100 000 livres de rente. Cette réplique chaleureuse de Monsieur Grandet et toute palpitante d'intérêt, comme il l'aurait appelé lui-même, ressemblait comme deux gouttes d'eau à un article de journal de messieurs Salvandi ou Viennet, et nous en ferons grâce au lecteur qui aura certainement lu quelque chose dans ce genre-là ce matin. Enfin, Monsieur Grandet, qui comprit un peu qu'il ne pouvait avoir quelque chance de ministère que par M. Leven, consentit à laisser la place de secrétaire général à la nomination de celui-ci. Quant au titre de son fils, M. Leven en décidera. À cause de la chambre, il vaudra peut-être mieux qu'il soit simple secrétaire intime, comme il est aujourd'hui sous M. Devèze, mais avec toutes les affaires du secrétaire général. Tout ce tripotage ne me convient guère. Dans une administration loyale, chacun doit porter le titre de ses fonctions. Alors, vous devriez vous appeler intendant d'une femme de génie qui vous fait ministre, pensa Madame Grandet. Il fallut encore perdre quelques minutes. Madame Grandet savait qu'on ne pouvait prendre ce brave colonel de garde nationale, son mari, que par pure fatigue physique. En parlant avec sa femme,
il s'exerçait à avoir de l'esprit à la Chambre des députés. On devine toute la grâce et l'à-propos qu'une telle prétention devait donner en un négociant parfaitement raisonnable et privé de toute espèce d'imagination.
Il faudra étourdir d'affaires M. Lucien Leven, lui faire oublier Mademoiselle Raymonde.
Noble fonction, en vérité.
C'est la marotte de l'homme qui, par un jeu ridicule de la fortune, a le pouvoir maintenant. Mais je dis tout pouvoir. Et quoi de respectable comme l'homme qui a le pouvoir ?
10 minutes après, M. Grandet, riant de la bonhomie de M. Leven, on reparla de Mademoiselle Raymonde. M. Grandet ayant dit sur ce sujet tout ce qu'on peut dire, il dit enfin «
Pour faire oublier cette passion ridicule, un peu de coquetterie de votre part ne serait pas déplacée. Vous pourriez lui offrir votre amitié. »
Ceci fut dit avec simple bon sens. C'était le ton naturel de M. Grandet. Jusque-là, il avait eu de l'esprit. La conférence était arrivée à son 7e quart d'heure.
« Sans doute, » répondit Mme Grandet avec le ton de la plus grande rondeur, et au fond, beaucoup de joie.
« Voilà un immense pas de fait, » pensa-t-elle. « Il fallait le constater. » Elle se leva.
« Voilà une idée, » dit-elle à son mari. « Mais elle est pénible pour moi. »«
Votre réputation est placée si haut. Votre conduite à 26 ans et avec tant de beauté a été si pure, a paru à une distance tellement élevée au-dessus de tous les soupçons, même de l'envie qui poursuit mes succès, que vous avez toute liberté de vous permettre, dans les limites de l'honnêteté et même de l'honneur, tout ce qui peut être utile à notre maison. »
Le voilà qui parle de ma réputation comme il parlerait des bonnes qualités de son cheval.
Ce n'est pas d'hier que le nom de Grandet est en possession de l'estime des honnêtes gens. Nous ne sommes pas nés sous un chou.
Ah, grand Dieu, pensa Madame Grandet, il va me parler de son aïeul, le Capitoule de Toulouse.
Sentez bien. « Monsieur le ministre, toute l'étendue de l'engagement que vous allez souscrire, il ne convient pas à ma considération d'admettre de changements brusques dans ma société. Si une fois Monsieur Lucien est notre ami intime, tel qu'il aura été pendant les 2 premiers mois de notre ministère, tel il faudra qu'il soit pendant 2 ans, même dans le cas où Monsieur Leven perdrait son crédit à la Chambre ou auprès du roi. Même dans le cas peu probable où votre ministère finirait.
Les ministères durent bien au moins 3 ans. La Chambre a encore 4 budgets à voter, répliqua M. Grandet d'un ton piqué.
Ah, grand Dieu, se dit Mme Grandet, je viens de m'attirer encore 10 minutes de haute politique à la façon du comptoir.
Elle se trompait. La conversation ne revint qu'au bout de 17 minutes. À l'engagement à prendre par M. Grandet d'admettre M. Lucien Leven à une amitié intime de 3 ans, si l'on se déterminait à l'admettre pour 1 mois.
Mais le public vous le donnera pour amant?
C'est un malheur dont je souffrirai plus que personne. Je m'attendais que vous chercheriez à m'en consoler. Mais enfin, voulez-vous être ministre?
Je veux être ministre. Mais par des voix honorables, comme Colbert.
Où est le cardinal Mazarin mourant pour vous présenter au roi?
Ce trait d'histoire, cité à propos, inspira de l'admiration à M. Grandet et lui sembla une raison.
Chapitre 65. Madame Grandet eût été fâchée d'être obligée de ne pas admettre Lucien à la première place dans son cœur. Si la situation se fût prolongée 8 ou 10 jours, elle eût peut-être continué, à ses frais, la route pour la première idée de laquelle il avait fallu la payer par un ministère. Elle eût aimé Lucien sérieusement. Elle voulut faire une partie d'échecs avec lui. Lucien lui dit « Par un petit sentier détourné auquel un buisson cache la plaine immense que nous dominons, mon père m'a fait parvenir au fait de la fortune. Elle était, ce soir-là, animée, brillante, d'une fraîcheur encore plus admirable qu'à l'ordinaire. Sa beauté, qui était du premier rang, n'avait rien de sublime, d'austère, en un mot de ce qui charme les cœurs distingués et fait peur aux vulgaires. Le succès de Madame Grandet auprès des 15 ou 20 personnes qui successivement s'approchèrent de la table d'échecs était frappant. « Et une telle femme me fait presque la cour, » pensait Lucien, tout en donnant à Madame Grandet le plaisir de le gagner. « Il faut que je sois un être bien singulier pour n'être pas heureux. » Tout à coup, il se dit, « Je suis dans une position analogue à celle de mon père. Je perds ma position dans ce salon si je n'en profite pas. Et qui me dit que je ne la regretterai pas? J'ai toujours méprisé cette position, mais je ne l'ai jamais occupée. La méprise serait d'un sot. C'est un avantage bien cruel pour moi que celui de jouer aux échecs avec vous. Si vous ne répondez pas à mon fatal amour, il ne me reste d'autre ressource que de me brûler la cervelle. Eh bien, vivez et aimez-moi. Votre présence ce soir m'ôterait tout l'empire que je dois avoir sur moi-même pour répondre à tant de monde. Allez parler 5 minutes à mon mari, et venez demain à 1 heure, à cheval s'il fait beau. » Me voilà donc heureux, pensa Lucien en remontant dans son cabriolet. Il n'eut pas fait 100 pas dans la rue qu'il accrocha. « Je suis donc vraiment heureux, » se dit-il en faisant monter son domestique pour conduire. « Je suis troublé. » N'est-ce donc que cela, que le bonheur que peut donner le monde ? Mon père va faire un ministère. Il a le plus beau rôle à la chambre. La femme la plus brillante de Paris semble céder à ma prétendue passion. Lucien eut beau torturer ce bonheur-là, le serrer dans tous les sens, il n'en put tirer que cette sensation. « Goûtons bien ce bonheur pour ne pas le regretter comme un enfant quand il sera passé. » Quelques jours après, Lucien, descendant de cabriolet pour monter chez Madame Grandet, fut séduit par l'éclat d'un beau clair de lune qu'il apercevait par la porte cochère sur la place de la Madeleine. Au lieu de monter, il sortit, ce qui étonna fort messieurs les cochers. Pour se délivrer de leurs regards, il alla à 100 pas plus loin, alluma humblement son cigare au feu d'un marchand de marrons et se laissa aller à admirer la beauté du ciel et à réfléchir. Lucien n'était nullement dans la confidence de tout ce que son père venait de faire pour lui, et nous ne nierons pas qu'il ne fût un peu fier de ses succès auprès de cette Madame Grandet, dont la conduite irréprochable, la rare beauté, la haute fortune, jetaient un certain éclat dans la société de Paris. Si elle eût réuni de la naissance à ses avantages, elle eût été célèbre. Mais quoi qu'elle fît, jamais elle n'avait pu avoir de milord anglais chez elle. Ce bonheur fut beaucoup plus vivement senti par Lucien après quelque temps que les premiers jours. Madame Grandet était la plus grande dame qu'il eût jamais approchée, car nous avouerons, et ceci lui nuira infiniment dans l'esprit de nos belles lectrices, qui, pour leur bonheur, ont trop de noblesse ou trop de fortune, que les prétentions infinies de mesdames de Commercy, de Marcilly et autres cousines de l'empereur, dépourvues de fortune qu'il avait rencontrées à Nancy, lui avaient toujours semblé ridicules. Le culte des vieilles idées, l'ultracisme, est bien plus ridicule en province qu'à Paris. À mes yeux, il l'est moins, car en province, au moins, ce grand corps est pur d'énergie. Ces gens-ci ont de l'envie et de la peur, et à cause de ces deux aimables passions, ils oublient de vivre. Ce mot, par lequel Lucien se résumait toutes ses sensations de province, lui gâtait la charmante figure de Madame d'Aucuncourt, comme l'esprit supérieur de Madame de Puylaurent. Cette peur continue, ce regret d'un passé qu'on n'ose pas défendre comme estimable, empêchait aux yeux de Lucien toute vraie grandeur. Il y avait au contraire tant de luxe, de richesse véritable et d'absence de peur et d'envie dans les salons de Madame Grandet. Là seulement on sait vivre, se disait Lucien. Et il se passait quelquefois des semaines entières sans qu'il fût choqué par quelques propos bas, tels qu'on n'en entendait jamais de pareils dans les salons de Madame d'Aucuncourt ou de Madame de Puylaurent. Ces propos bas, montrant toute la vileté de l'âme, étaient tenus par quelques députés du centre, qui, en se vendant au ministère pour un ruban ou une recette de tabac, n'avaient pas encore appris à placer un masque sur sa laideur. Au grand chagrin de son père, jamais Lucien n'adressait la parole à ces êtres lourds. Il les entendait en passant, qui, à propos de 25 millions du président Jackson, du droit sur les sucres ou de quelque autre question du moment, agitaient lourdement quelques points d'économie politique sans pouvoir s'élever à comprendre même les bases de la question. « Voilà sans doute la lie de la France, » pensait Lucien. « Cela est bête et vendu. Mais du moins cela n'a pas peur et ne regrette pas le passé. Et ils n'hébètent pas leurs enfants en les réduisant pour toute lecture à la journée du chrétien. Dans ce siècle où tout est argent, où tout se vend, quoi de comparable à une immense fortune dépensée d'une main adroite et cauteleuse ? Ce Grandet ne dépense pas 10 louis sans songer à la position qu'il occupe dans le monde. Ni lui ni sa femme ne se permettent les caprices que je me passe, moi, fils de famille. » Il les voyait lésiner souvent pour la location d'une loge ou demander une loge au château ou au ministère de l'Intérieur. Lucien voyait Madame Grandet entourée des hommages universels. Au milieu de toute cette philosophie, un certain instinct monarchique existant encore chez les Français à Carrosse lui disait bien qu'il serait plus flatteur d'être préféré par une femme portant l'un des noms célèbres de la monarchie. « Mais si j'arrivais, chose impossible pour moi, dans les salons de cette opinion à Paris, j'y trouverais pour toute différence que les 3 ou 4 officiers de Saint-Louis, de messieurs de Serpierre et de Marcilly, seraient remplacés par 3 ou 4 experts soutenants, comme monsieur de Saint-Lérange et madame de Marcilly, que l'empereur Nicolas a un trésor de 600 millions, à lui légué par l'empereur Alexandre, dans une petite caisse, avec commission d'exterminer les Jacobins de France, aussitôt qu'il en aura le loisir. Il y a sans doute, ici comme là-bas, un abbé Ré, régnant en despote sur ces pauvres jolies femmes, et les obligeant par la terreur à aller passer 2 heures au sermon d'un monsieur l'abbé Poulet. La maîtresse que j'aurais, si l'âge de ses aïeux touchait au berceau du monde, serait obligée, comme madame d'Aucuncourt, à se mêler malgré elle dans une discussion de 20 minutes au moins sur le mérite du dernier mandement de monseigneur l'évêque de. Les louanges des pères qui firent brûler Jean Hus seraient, il est vrai, présentées avec une élégance parfaite. Mais que cette élégance trahit de dureté de cœur. Dès que je l'aperçois, elle me met sur mes gardes. Dans les livres, elle me plaît, mais dans le monde, elle me glace, et au bout d'un quart d'heure m'inspire de l'éloignement. Chez madame Grandet, grâce à son nom bourgeois, ce genre d'absurdité est entièrement réservé à ses colloques du matin avec madame de Thémines, madame Toniel ou autre mère de l'Église, et j'en serai quitte pour quelques mots de respect pour ce qui est respectable, répété une fois la semaine. Les hommes que je vois chez madame Grandet ont au moins fait quelque chose, quand ce ne serait que leur fortune. Qu'ils l'aient acquise par le négoce, ou par des articles de journaux, ou par des discours vendus au gouvernement, enfin, ils ont agi. Ce monde que je vois chez ma maîtresse, dit-il en riant, est comme une histoire écrite en mauvais langage, mais intéressante pour le fond des choses. Le monde de madame de Marcilly, c'est des théories absurdes, ou même hypocrites, basées sur des faits controuvés et recouvertes d'un langage poli. Mais l'âpreté du regard dément à chaque instant l'élégance de la forme. Toute cette éloquence onctueuse et imitée de Fénelon exhale, pour qui a des sens fins, une odeur fine et pénétrante de coquinerie et de friponnerie. Chez la madame de Marcilly de Paris, je pourrais prendre peu à peu l'habitude de cette absence d'intérêt pour ce que je dis et de ces expressions diminuant ma pensée que ma mère me recommande souvent. Je commence bien quelquefois à me repentir de ne pas avoir eu ces vertus du XIXe siècle, mais je m'ennuierai moi-même. Je compte que la vieillesse y pourvoira. Je remarque que l'effet assuré de cette espèce d'élégance chez le petit nombre de jeunes habitants du faubourg Saint-Germain, gens qui ont pu l'acquérir sans laisser leur bon sens à l'école, est de répandre autour de l'homme accompli une méfiance profonde. Ces discours élégants sont comme un oranger qui croîtrait au milieu de la forêt de Compiègne. Ils sont jolis, mais ne semblent pas de notre siècle. Le hasard n'a pas voulu me faire naître dans ce monde-là. Et pourquoi me changer? Que demandais-je au monde? Mes yeux me trahiraient, et madame de Chastelet me l'a dit 20 fois. Son parler si coulant fut interrompu net, comme jadis celui de cet homme faible, qui, devant le pouvoir, venait de désavouer son ami arrêté pour opinion politique par la police, fut averti par le chant du coq. Lucien resta immobile, comme Bartolo dans le Barbiere de Rossini. 8 ou 10 fois depuis son bonheur auprès de madame Grandet, l'idée de madame de Chastelet s'était présentée à lui, mais jamais aussi nettement. Toujours il avait été distrait par quelques phrases rapides, comme « Mon cœur n'est pour rien dans cette aventure de jeunesse et d'ambition ». Mais par toutes les combinaisons qui avaient précédé le rappel du nom de madame de Chastelet, il prenait des mesures pour faire durer longtemps cette nouvelle liaison. Madame Grandet ne le portait pas simplement à rompre avec la personne de mademoiselle Raymonde, mais avec le souvenir cher et sacré de madame de Chastelet. L'impiété était plus grande. Il y avait 2 mois qu'il avait rencontré dans la collection des porcelaines divines de M. Constantin une tête qu'il avait fait rougir par sa ressemblance avec madame de Chastelet, et il l'avait fait copier en ne quittant pas un moment le jeune peintre dont, par son anxiété et sa douceur, il s'était fait un ami. Il courut chez lui comme pour faire amende honorable devant cette sainte image. Sera-t-il tout à fait déshonoré si nous avouons que, comme le personnage célèbre auquel nous avons eu naguère le courage de le comparer, il répandit des pleurs? Sur la fin de la soirée, il prit sur lui de venir passer un moment chez madame Grandet. Lucien était un autre homme. Madame Grandet s'aperçut de ce changement dans ses idées. 8 jours auparavant, cette nuance morale eût passé inaperçue. Si, sans se l'avouer, elle n'était plus seulement dominée par l'ambition, elle commençait à prendre du goût pour ce jeune homme, qui n'était pas triste comme les autres, mais sérieux. Elle lui trouvait un charme inexprimable. Si elle eût eu plus d'expérience ou plus d'esprit, elle eût appelé naturelle cette façon d'être singulière qui l'attachait à Lucien. Elle avait 26 ans passés, elle était mariée depuis 7 ans, et depuis 5, régnait dans la plus brillante, si ce n'est la plus noble, société. Jamais un homme n'avait osé lui baiser la main en tête à tête. Le lendemain, il y eut une scène entre M. Leven et Mme Grandet. M. Leven, parfaitement honnête homme dans toute cette affaire, s'était hâté de présenter M. Grandet au vieux maréchal, lequel, rempli de bon sens et de vigueur quand il ne se laissait pas engourdir par la paresse ou par l'humeur, avait fait à ce futur collègue 4 ou 5 questions brusques, auxquelles le riche banquier, peu accoutumé à s'entendre parler aussi nettement, avait répondu par des phrases qu'il croyait bien arrondies. Sur quoi, le maréchal, qui détestait les phrases, d'abord parce qu'elles sont détestables, et ensuite parce qu'il ne savait pas en faire, lui avait tourné le dos. « Mais votre homme n'est qu'un sot !» M. Grandet était rentré chez lui, pâle et désespéré. De toute la journée, il ne fut plus tenté de se comparer à Colbert. il avait justement le degré de tact nécessaire pour comprendre qu'il avait souverainement déplu au maréchal. Il est vrai que la grossièreté du vieux général, ennuyé, voleur et rongé de bile, avait proportionné sa conduite à la rapidité de tact de M. Grandet. Celui-ci raconta son malheur à sa femme, qui accabla son mari de flatteries, mais prit sur le champ la ferme opinion que M. Leven l'avait trompé. Elle méprisait bien son mari, ainsi que le doit toute honnête femme, mais elle ne le méprisait pas assez. « Quel est son métier ? » se disait-elle depuis 3 ans. « Il est banquier et colonel de la garde nationale. Eh bien, comme banquier, il gagne de l'argent. Comme colonel, il est brave. Les deux métiers s'entraident. Comme colonel, il fait avoir de l'avancement dans la Légion d'honneur à certains régents de la Banque de France ou du syndicat des agents de change, qui, de temps à autre, lui font prêter 1 million ou 2 pendant 36 heures pour faire une hausse ou une baisse. Mais M. le comte de Vèze exploite la bourse par son télégraphe, comme M. Grandet par une hausse. 2 ou 3 ministres font comme M. de Vèze, et leur maître à tous ne s'en fait pas faute et quelquefois les ruine, comme il est arrivé à ce pauvre Castel Fugains. Mon mari a sur tous ces gens-là l'avantage d'être un très brave colonel. » Madame Grandet ne croyait pas que le monde s'aperçût de la détestable manie de faire de l'esprit qui possédait son lourd mari. Or, jamais homme n'avait reçu de la nature une imagination plus calme pour tout ce qui n'était pas de l'argent comptant réalisé ou perdu par une cote de change. Tout ce que l'on disait lui semblait toujours, à lui, vrai marchand, un bavardage destiné à enjôler un acheteur. Depuis 4 ou 5 ans que M. Grandet, piqué d'honneur par le luxe de M. Tourette, donnait de belles fêtes, Mme Grandet ne le voyait jamais qu'entouré de flatteurs. Un jour, un pauvre petit bonhomme d'esprit, pauvre et pas trop bien mis, M. Gamont, avait osé différer un peu d'opinion avec M. Grandet sur le plus ou moins de beauté de la cathédrale d'Auch. M. Grandet l'avait chassé de chez lui à l'instant avec une grossièreté, avec un triomphe barbare des écus sur la pauvreté qui avait choqué même Mme Grandet. Quelques jours après, elle envoya, avec une lettre anonyme alléguant une restitution, 500 francs au pauvre Gamont, qui, 3 mois après, eut la bassesse de se laisser réinviter à dîner par M. Grandet. Lorsque M. Leven dit à Mme Grandet la vérité, encore bien adoucie, sur le vide, la platitude, les fausses grâces des réponses de M. Grandet au vieux maréchal, Mme Grandet lui fit entendre avec un froid dédain, qui allait admirablement au genre de sa beauté, qu'elle croyait qu'il la trahissait. M. Leven se conduisit comme un jeune homme. Il fut au désespoir de cette accusation. Et pendant 3 jours, son unique affaire fut de prouver son injustice à Mme Grandet. Ce qui compliquait la question, c'est que le roi, qui depuis 5 ou 6 mois devenait chaque jour plus ennemi des résolutions décisives, avait envoyé son fils chez le ministre des Finances afin de moyenner un raccommodement avec le vieux maréchal. Sauf ensuite, quand le raccommodement ne conviendrait plus à lui, roi, de désavouer son fils et de l'exiler à la campagne. Le raccommodement avait réussi, car le vieux maréchal tenait beaucoup à ce qu'une certaine fourniture de chevaux fût entièrement soldée avant sa sortie du ministère. M. Salomon C., le chef de cette entreprise, avait sagement stipulé que les 100 000 francs de nantissement donnés par le fils du maréchal et les bénéfices appartenant à la même personne ne seraient payés qu'avec les fonds provenant de l'ordonnance de solde signée par M. le ministre des Finances. Le roi savait bien la spéculation sur les chevaux, mais n'avait pas connaissance de ce détail, quand il l'apprit par un petit espion intérieur du ministre des Finances qui adressait des comptes rendus à sa sœur.
il fut humilié et furieux de ne pas l'avoir deviné, et dans sa colère, il fut sur le point de donner le commandement d'une brigade à Alger à M. Leger, le chef de sa police particulière. La politique du roi avec ses ministres eût été toute différente si elle avait été sûre de tenir le maréchal par des liens invincibles pendant 15 jours encore. M. Leven ne savait pas ce détail. Il prit ce délai de 15 jours pour un nouveau symptôme de timidité ou même d'affaiblissement dans le génie du roi. Mais cette raison, il n'osa jamais la donner à Madame Grandet. Il avait pour principe qu'il est certaines choses qu'il ne faut jamais dire aux femmes. Il résulta de là que, parlant avec une ouverture de cœur et une bonne foi parfaite, sauf ce détail, à Madame Grandet, dont l'esprit était aiguisé en cette circonstance par l'anxiété la plus vive, crut voir qu'il n'était pas sincère avec elle. M. Leven s'aperçut de ce soupçon. Dans son désespoir d'honnête homme, qui fut vif et violent comme toutes ses sensations. Ce même jour, M. Leven, qui n'osait traiter à fond de certains sujets en présence de sa femme, après le dîner de famille, partit de bonne heure pour l'opéra, emmena son fils, ferma avec soin le verrou de sa loge. Ces précautions prises, il osa lui raconter en détail et dans le style le plus simple le marché fait avec Madame Grandet. M. Leven croyait parler à un homme politique et commettait lui-même une lourde gaucherie. La vanité de Lucien fut consternée. Il se sentit froid dans la poitrine, car notre héros, en cela fort différent des héros des romans de bon goût, n'est point absolument parfait. Il n'est même pas parfait, tout simplement. Il est né à Paris. Par conséquent, il a des premiers mouvements d'une force incroyable. Cette vanité immense, parisienne, n'était pas cependant unie à sa compagne vulgaire, la sottise de croire posséder des avantages qu'on n'a pas. Du côté des choses qui lui manquaient, il se jugeait même avec sévérité. Par exemple, il se disait « Je suis trop simple, trop sincère, je ne sais pas assez dissimuler l'ennui », et encore moins l'amour que je sens pour arriver jamais à des succès marquants auprès des femmes de la société. Tout à coup, et d'une façon imprévue, Madame Grandet, avec son port de reine, sa rare beauté, son immense fortune, sa conduite irréprochable, était venue donner un brillant démenti à ses prévisions philosophiques, mais triste. Lucien goûtait ce hasard avec délice. « Ce succès n'aura jamais de pendant, » se disait-il. « Jamais je ne réussirai, sans amour de ma part, auprès d'une femme à haute vertu et à grand état dans le monde. Je n'aurai jamais de succès, si j'en ai, que, comme me le dit Ernest, par le plat et vulgaire moyen de la contagion de l'amour. Je suis trop ignare pour savoir séduire qui que ce soit, même une grisette. » Au bout de 8 jours, ou elle m'ennuie, je la plante là, ou elle me plaît trop. Elle le voit et se moque de moi. Si la pauvre Madame de Chastelet m'a aimé, comme je suis quelquefois tentée de le croire, et encore, aimé après la faute commise avec cet exécrable lieutenant-colonel de Hussards, être si commun, si plat, si dégoûtant comme rival, ce n'est pas que j'ai eu du talent, c'est tout simplement que je l'aimais à la folie. Comme je l'aime. » Lucien s'arrêta un moment. Sa vanité était si vivement piquée en ce moment qu'il avait de l'amour plutôt le souvenir récent que la conscience de sa présence actuelle. L'aventure de Madame Grandet commençait donc à plaire à Lucien comme une chance heureuse. « Il est drôle, se disait-il, avant la confidence faite par son père, que sans rouerie, sans fausseté autre que de parler de mon amour, sans scélératesse d'aucune espèce, j'ai eu un succès de femme. Les habiles croient une telle chose impossible. » Ce fut précisément à l'instant où l'aventure de Madame Grandet commençait à plaire extrêmement à Lucien que le mot de son père vint faire disparaître tout cet échafaudage de contentement de soi-même.
Une heure auparavant, il se répétait encore « Ernest sera trompé une fois quand il m'a prédit que de la vie je n'obtiendrais une femme comme il faut, sans l'aimer, autrement que par la pitié, les larmes et tout ce que ce chimiste de malheur appelle la voix humide. » Le traître maudit par son père, succédant à une journée de triomphe, le plongea dans l'amertume. « Mon père, se dit Lucien, se moque de moi. » Par excès de vanité, il sut ne pas se laisser dominer par l'œil fin et scrutateur de son père qu'il voyait attaché au sien. Il déroba à ce moqueur impitoyable son désappointement cruel. Monsieur Leven eût été bien heureux de deviner son fils. Il savait par expérience que le même fond de vanité qui fait sentir cruellement les malheurs de ce genre ne les laisse pas sentir longtemps. Il avait au contraire une crainte profonde de l'intérêt aspiré par Madame de Chastelet. Il ne sut rien voir et trouva son fils, un homme politique comprenant fort bien la position du roi avec ses ministres, et ne s'exagérant d'un côté ni la finesse cauteleuse ni la bassesse rampante de l'autre. Bassesse qui toutefois se réveille sous le coup de fouet cruel de la plaisanterie parisienne. Une minute ne s'était pas passée que M. Leven n'était plus attentif qu'à bien pénétrer Lucien du rôle qu'il devait jouer auprès de Madame Grandet pour la bien persuader que lui, Leven père, ne la trahissait en aucune façon et que c'était la lourdise de M. Grandet qui avait fait tout le mal. Mais lui, Leven, se chargeait de réparer ce mal. Heureusement pour notre héros, après une séance d'une heure, monsieur vint parler à son père. « Tu vas place de la Madeleine, n'est-ce pas ?»« Sans doute, » répondit Lucien avec une véracité jésuite. En effet, il alla presque en courant jusque sur la place de la Madeleine, seul endroit de ses environs où, à cette heure, il put trouver quelque tranquillité et la certitude de n'être pas abordé, car il était un petit personnage et on lui faisait la cour. Là, pendant une heure entière, il se promena sur les dalles des trottoirs solitaires et put se dire et se redire « Non, je n'ai pas gagné un quine à la loterie. Oui, je suis un nigaud, incapable d'obtenir une femme par mon esprit et de la gagner autrement que par la méthode plate de la contagion de l'amour. Oui, mon père est comme tous les pères, ce que je n'avais pas su voir jusqu'ici. Avec infiniment plus d'esprit et même de sentiments qu'un autre, il n'en veut pas moins me rendre heureux à sa façon et non à la mienne. Et c'est pour servir cette passion d'un autre que je m'hébète depuis 8 mois par le travail de bureau le plus excessif et dans le fait le plus stupide. Car les autres victimes du fauteuil de maroquin, au moins, sont ambitieux. Le petit Débac, par exemple. Ces phrases emphatiques et convenues que j'écris avec variation, dans la bonne intention de faire pâlir un préfet qui souffre un café libéral dans sa ville, ou pour faire pâmer d'aise celui qui, sans se compromettre, a pu gagner un jury et envoyer en prison un journaliste, il les trouve belles, convenables, gouvernementales. Il ne pense pas que celui qui les signe n'est qu'un fripon, mais un sot comme moi, affligé de cette délicatesse. J'ai tout le déboire du métier, sans aucune de ses jouissances. Je fais sans goût des choses que je trouve à la fois déshonorantes et stupides. Et tôt ou tard, ces paroles aimables que je me dis ici, j'aurai le plaisir de me les entendre adresser tout haut et en public, ce qui ne laissera pas d'être flatteur. Car enfin, à moins que l'excès de l'esprit ne tue, comme disent les bonnes femmes, je n'ai que 24 ans, et en conscience, ce château de cartes de friponnerie éhontée, combien peut-il durer? 5 ans? 10 ans? 20 ans? Probablement pas 10 ans. Quand j'en aurai 40 à peine, et qu'il y aura réaction contre ces fripons-ci, mon rôle sera le dernier des rôles, le fouet de la satire. Me poursuivit-il avec un sourire plein d'amertume,
me vilipendera pour des péchés qui, pour moi, n'ont pas été aimables. Si vous me damnez, damnez-vous donc au moins pour des péchés aimables. Débac, au contraire, jouera le beau rôle, car enfin, aujourd'hui, il serait ivre de bonheur de se voir maître des requêtes, préfet, secrétaire général. Tandis que je ne puis voir dans M. Lucien Leven qu'un sot complet, qu'un butor endurci. La boue de Blois même n'a pas pu me réveiller. Qui te réveillera donc, infâme? Attends-tu le soufflet personnel? Coff a raison. Je suis plus grandement dupe qu'aucun de ces cœurs vulgaires qui se sont vendus au gouvernement. Hier, en parlant de débâcle et consorts, Coff ne m'a-t-il pas dit avec sa froideur inexorable? Ce qui fait que je ne les méprise pas trop, c'est qu'au moins ils n'ont pas de quoi dîner. Un avancement merveilleux pour mon âge, mes talents, la position de mon père dans le monde. M'a-t-il jamais donné d'autres sentiments que cet étonnement sans plaisir? N'est-ce que ça? Il est temps de se réveiller. Qu'ai-je besoin de fortune? Un dîner de 5 francs et un cheval, ne me suffisent-ils pas, et au-delà? Tout le reste est bien plus souvent corvée que plaisir. À présent surtout que je pourrais dire « Je ne méprise pas ce que je ne connais point » comme un sot philosophe à la Jean-Jacques. Succès du monde, sourire, serrement de main des députés campagnards ou des sous-préfets en congé, bienveillance grossière dans tous les regards d'un salon, je vous ai goûté. Je vais vous retrouver dans un quart d'heure au foyer de l'opéra. Et si je partais, sans rentrer à l'opéra, pour aller entrevoir le seul pays au monde où soit pour moi le peut-être du bonheur? En 18 heures, je puis être dans la rue de la Pompe. Cette idée s'empara de son attention pendant 1 heure entière. Depuis quelques mois, notre héros était devenu beaucoup plus hardi. Il avait vu de près les motifs qui font agir les hommes chargés des grandes places. Cette sorte de timidité qui a un œil clairvoyant annonce une âme sincère et grande n'avait pu tenir contre la première expérience des grandes affaires. S'il eût usé sa vie dans le comptoir de son père, il eût peut-être été toute la vie un homme de mérite, connu pour tel d'une personne ou deux. Il osait maintenant croire à son premier mouvement et y tenir jusqu'à ce qu'on lui eût prouvé qu'il avait tort. Et il devait à l'ironie de son père l'impossibilité de se payer de mauvaises raisons. Pendant 1 heure entière, ses idées occupèrent sa promenade agitée. Au fond, je n'ai à ménager dans tout ceci que le cœur de ma mère et la vanité de mon père, qui, au bout de 6 semaines, oubliera ses châteaux en Espagne sur un fils qui se trouve être 1000 fois trop paysan du Danube pour ce qu'il veut en faire. Un homme adroit, faisant une bonne brèche dans le budget. Avec ses idées établies dans son esprit comme des idées incontestables et nouvelles, Lucien rentra à l'opéra. La musique plate et les charmants pas de Mademoiselle Hessler lui causèrent un enchantement qui l'étonna. Il se disait vaguement qu'il ne jouirait pas longtemps encore de toutes ces belles choses, et à cause de cela, elles ne lui donnaient pas d'humeur. Pendant que la musique donnait des ailes à son imagination, sa raison parcourait avec intérêt plusieurs chances de la vie. Si, par l'agriculture, on n'était pas mis en rapport avec des paysans fripons, avec un curé qui les ameute contre vous, avec un préfet qui vous fait voter votre journal à la poste, comme avant-hier encore je l'ai insinué à ce benêt de préfet de... Ce serait une manière de travailler qui me conviendrait. Vivre dans une terre avec Madame de Chastelet et faire produire à cette terre les 12 ou 15 000 francs nécessaires à notre petit bien-être. Luxe modeste. Ah, l'Amérique. Là, point de préfet comme Monsieur de Séranville. Et toutes ces anciennes idées sur l'Amérique et sur Monsieur de Lafayette lui revinrent à l'esprit. Quand il rencontrait tous les dimanches Monsieur de Lafayette chez Monsieur de Tracy,
Il se figurait qu'avec son bon sens, sa probité, sa haute philosophie, les gens d'Amérique auraient aussi l'élégance de ses manières. Il avait été rudement détrompé. Là règne la majorité, laquelle est formée en grande partie par la canaille. À New York, la charrette gouvernative est tombée dans l'ornière opposée à la nôtre. Le suffrage universel règne en tyran, et en tyran aux mains sales. Si je ne plais pas à mon cordonnier, il répand sur mon compte une calomnie qui me fâche, et il faut que je flatte mon cordonnier. Les hommes ne sont pas pesés, mais comptés, et le vote du plus grossier des artisans compte autant que celui de Jefferson, et souvent rencontre plus de sympathie. Le clergé les hébète encore plus que nous. Ils font descendre un dimanche matin un voyageur qui court dans la malle-poste parce que, en voyageant le dimanche, il fait œuvre servile et commet un gros péché. Cette grossièreté universelle et sombre m'étoufferait. Enfin, je ferai ce que Bathilde voudra. Il raisonna longtemps sur cette idée. Enfin, elle l'étonna. Il fut heureux de la trouver si profondément enracinée dans son esprit. « Je suis donc bien sûr de lui pardonner. Ce n'est pas une illusion. » Il avait entièrement pardonné la faute de Madame de Chastelet. « Telle qu'elle est, elle est pour moi la seule femme qui existe. Je crois qu'il y aura plus de délicatesse à ne jamais laisser soupçonner que je connais les suites de la faiblesse pour Monsieur de Buzan de Sicile. Elle m'en parlera si elle veut m'en parler. Ce stupide travail de bureau me prouve au moins que je suis capable de gagner au besoin ma vie et celle de ma femme. » À qui l'a-t-il prouvé ? Dit le parti contraire. Et à cette objection, le regard de Lucien devint hagard. À ces gens-ci, que peut-être tu ne reverras jamais, qui, si tu les quittes, te calomnieront. Eh non, parbleu, il l'a prouvé à moi, et c'est là l'essentiel. Et que me fait l'opinion de cette légion de demi-fripons qui regarde avec ébahissement ma croix et mon avancement rapide? Je ne suis plus le jeune sous-lieutenant de Lancier partant pour Nancy afin de rejoindre son régiment, esclave alors de 100 petites faiblesses de vanité, et encore regimbant sous ce mot brûlant d'Ernest Desvalleroy. Oh, trop heureux d'avoir un père qui te donne du pain! Bathilde m'a dit des mots vrais par ses ordres. Je me suis comparée à des centaines d'hommes et des plus estimés. Faisons comme le monde. Laissons la moralité de nos actions officielles. Eh bien, je sais que je puis travailler deux fois autant que le chef de bureau le plus lourd, et partant le plus considéré, et encore à un travail que je méprise, à qui, à Blois, m'a couvert d'une boue méritée peut-être. Ce fond de pensée était à peu près le bonheur pour Lucien. Les sons d'un orchestre mâle et vigoureux, les pas divins et pleins de grâce de Mademoiselle Esler, le distrayaient de temps en temps de ses raisonnements et leur donnaient une grâce et une vigueur séduisantes. Mais bien plus céleste encore était l'image de Madame de Chastelet, qui à chaque moment venait dominer sa vie. Ce mélange de raisonnement et d'amour fit de cette fin de soirée, passée dans un coin de l'orchestre, un des soirs les plus heureux de sa vie. Mais le rideau tomba. Rentrer à la maison et être aimable pendant une conversation avec son père, c'était retomber de la façon la plus désagréable dans le monde réel. Et il faut avoir le courage de le dire, dans un monde ennuyeux. Il ne faut rentrer à la maison qu'à 2 heures, ou gare le dialogue paternel. Lucien monta dans un hôtel garni, prit un petit appartement, il paya, mais on insistait pour un passeport. Il se mit d'accord avec son hôte en assurant qu'il ne coucherait pas cette nuit et que le lendemain il apporterait son passeport. Il se promena avec délices dans ce joli petit appartement, dont le plus beau meuble était cette idée. « Ici, je suis libre. » Il s'amusa comme un enfant du faux nom qu'il se donnerait dans cet hôtel garni. « Il faut un faux nom pour assurer encore plus ma liberté.
« Ici, je serai, » se disait-il en se promenant avec délices, « je serai tout à fait à l'abri de la sollicitude paternelle, maternelle, sempiternelle. » Oui, ce mot si grossier fut prononcé par notre héros. Et j'en suis fâché, non pour lui, mais pour la nature humaine. Tant il est vrai que l'instinct de la liberté est dans tous les cœurs, et qu'on ne le choque jamais impunément dans les pays où l'ironie a désenchanté les sottises. Un instant après, Lucien se reprocha vivement ce mot grossier à l'égard de sa mère. Mais enfin, sans se l'avouer sans doute, cette excellente mère aussi avait attenté à sa liberté. Madame Leveine croyait fermement avoir mis toute la délicatesse et toute l'adresse possible à ses procédés. Elle n'avait pas prononcé une seule fois le nom de Madame de Chastelet. Mais un sentiment plus fin que l'esprit de la femme de Paris à qui l'on en accordait le plus avait donné à Lucien la certitude que sa mère haïssait Madame de Chastelet. Or, se disait-il, ou plutôt sentait-il sans se l'avouer, ma mère ne doit ni aimer ni haïr Madame de Chastelet. Elle doit ne pas savoir qu'elle existe. Le souvenir, vif et imprévu de Madame de Chastelet, avait fait une révolution dans le cœur de Lucien. Mais il était enchaîné à Paris par la vive amitié qu'il avait pour ses parents. La confidence de son père sur le marché fait avec Madame Grandet fut une grande faute chez cet homme adroit, il est vrai, admirable d'expédient, mais trop de premiers mouvements pour être politique. On pense bien qu'au milieu de telles idées, Lucien n'eut pas la moindre tentation d'aller s'asphyxier dans les idées épaisses du salon de Madame Grandet, et encore moins se soumettre à ses serments de main. Cependant, on l'attendait dans ce salon avec anxiété. Le voile sombre, qui quelquefois obscurcissait les qualités aimables de Lucien et le réduisait, en apparence du moins, et aux yeux de Madame Grandet, au rôle d'un froid philosophe, avait fait révolution chez cette femme jusque-là sage et ambitieuse. « Il n'est pas aimable, mais du moins, se disait-elle, il est parfaitement sincère. » Ce mot fut comme le premier pas qui la jeta dans un sentiment jusque-là si inconnu pour elle et si impossible.